Même si l'animal transmet des messages, il ne parle pas parce qu'il ne pense pas. C'est pourquoi, s'il est dans le besoin, l'animal ne pourra pas le nommer. Il se contente de proférer des cris pour exprimer son besoin, à l'exemple du mouton qui bêle quand il a faim. Descartes affirme que le langage et la pensée sont intimement liés. Il dit « Il n'y a point d'homme, si hébété et si stupide, sans en excepter les plus insensés, qui ne soit capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel il va faire entendre sa pensée. Et au contraire, il n'y a point d'autre animal tant parfait, étant heureusement bien né, qui peut faire le semblable. On comprend à travers cette citation qu'il n'y a pas de langage sans pensée. Pour Descartes, qui pense parle, qui ne pense pas ne parle pas. C'est dire que le langage est spécifiquement humain. Il est bien vrai que le langage de l'homme est vocal, alors que l'animal, ne disposant pas de voix, communique par des signes ou des sons. Mais le fait que l'animal communique par des signes ou des sons ne suffit-il pas pour parler de langage animal? En tout cas, si on considère que les animaux s'expriment à leur manière comme la poule qui glousse, le cheval qui hennit, le chien qui aboie ou le chat qui miaule, on peut admettre que le langage animal existe. Et c'est ce que démontrent Carl von Frisch et Émile Benveniste avec les abeilles. Dans son ouvrage « Vie et mœurs des abeilles » 1955, Carl von Frisch a étudié les danses qu'effectuaient les abeilles. Il montre qu'au retour d'une bonne source de nourriture, l'abeille éclaireuse accomplit une danse pour indiquer aux autres abeilles la direction et la distance de la nourriture. L'insecte peut ainsi livrer quatre informations à ses congénères: l'existence du butin, sinon il n'y aurait pas de danse, la direction du butin, la nature du butin, le parfum de la fleur imprègne les poils de l'abdomen de l'éclaireuse. Immédiatement, les abeilles savent de quelle fleur il s'agit. La distance du butin par rapport à la ruche. Danse relativement lente en forme circulaire si la fleur est située à une distance comprise entre 50 et 100 mètres de la ruche. Danse frétillante en forme de 8 si le butin est à 100 mètres ou plus. Émile Benveniste reconnaît certes l'existence du langage animal, mais il l'oppose à celui de l'homme. Dans Problèmes de linguistique générale, il dit que la communication des abeilles ne connaît pas le dialogue, qui est la condition du langage humain. C'est une communication qui consiste entièrement dans la danse, sans intervention d'un appareil vocal. C'est un langage gestuel qui exige comme condition l'éclairage du jour pour une bonne perception visuelle, ce qui signifie que la communication des abeilles ne peut pas avoir lieu dans l'obscurité alors que le langage humain ne connaît pas cette limitation. Il peut s'effectuer de jour comme de nuit et est, par excellence, vocal. L'autre différence que Benveniste soulève, c'est que le message des abeilles n'appelle aucune réponse de l'entourage, sinon une certaine conduite qui n'est pas une réponse. Deux langages et pensée. Les rapports entre la pensée et le langage sont d'habitude posés en termes d'antériorité de l'un par rapport à l'autre. Pense-t-on avant de parler ou bien penser? Et langage sont-ils liés? Logiquement, c'est la pensée qui vient avant le langage. Nos paroles expriment nos pensées, nos idées. Ce qui fera dire à Louis-Gabriel Ambroise de Bonald, homme politique et écrivain français du XVIIIe siècle, que « l'homme pense d'abord sa parole avant de parler sa pensée ». C'est pourquoi il nous arrive de chercher les mots pour exprimer une pensée déjà faite, déjà construite. C'est tout le sens du proverbe qui dit qu'avant de parler, il faut remuer sept fois la langue, c'est-à-dire penser mûrement à ce que l'on dit. Vu sous cet angle, la pensée précède le langage. Hegel et Oscar Wilde affirment, au contraire, que la pensée et le langage s'effectuent simultanément. Pour eux, penser à ce que l'on dit, c'est déjà parler. Dès qu'on pense, on parle, car on ne peut penser qu'avec les mots comme l'écrit Oscar Wilde, écrivain irlandais du XIXe siècle. Nos pensées naissent toutes habillées. Plutôt qu'un rapport d'antériorité, langage et pensée entretiennent un rapport de simultanéité. On pourrait même dire que la pensée et le langage sont comme le recto et le verso d'une feuille. Pour Hegel, c'est dans les mots que nous pensons, c'est-à-dire que nous formulons nos idées avec les mots, ce qui signifie que penser, c'est parler intérieurement. La pensée serait même une sorte de langage intérieur. C'est le dialogue silencieux de l'âme avec elle-même sans la voix, dit Platon dans le Sophiste. 3. Le langage trahit-il la pensée? Une rupture peut cependant s'établir entre la pensée et le langage. Dans le lapsus et le délire, le langage est séparé de la pensée. Il arrive aussi que ce que nous disons ne traduise pas fidèlement la pensée. C'est pourquoi on dit que le langage est infidèle à la pensée, puisque incapable de traduire exactement nos pensées, nos sentiments, nos émotions, etc. Parfois, quand la personne est sous l'effet d'une colère excessive ou d'une joie débordante, elle a du mal à exprimer ses sentiments. Quand une personne est également devant une réalité inédite, une angoisse, un étonnement, une foule, une star, etc., elle peut perdre ses mots. Sous ce rapport, le langage présente des limites, ce qui explique qu'il peut parfois manquer la réalité. Le langage étant limité, il arrive ainsi qu'une personne soit incapable d'exprimer ses émotions. Alors elle se tait parce qu'elle entre dans l'univers de l'ineffable, ce qui ne peut être dit. C'est à ce titre que Ludwig Wittgenstein disait dans le Tractatus Logico-Philosophicus que ce qu'on ne peut dire, il faut le taire. Mais selon Hegel, il est faux de dire que le langage est incapable de traduire nos pensées. À l'en croire, une pensée qui ne trouve pas son mot n'est pas encore arrivée à maturité. Elle est une pensée à l'état de fermentation et trouvera forcément son mot lorsqu'elle sera mûre. Hegel critique ainsi l'ineffable et s'attaque à Platon pour qui l'ineffable est ce qu'il y a de plus élevé, de plus pur, de plus beau, de meilleur. Pour Hegel, tout peut se dire, car tout a un mot. Il affirme que c'est seulement dans et par le langage que la pensée peut se réaliser. On peut, de la même façon, comprendre Nicolas Boileau qui dit « Ce qui se conçoit bien s'annonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. » Quatre formes et fonctions du langage. Le langage a plusieurs formes. On peut citer l'écriture, le regard, l'art, la musique, le langage des fleurs et des couleurs, la gestuelle, la mimique, les signes, etc. Quant aux fonctions, Jacobson dit qu'elles sont nombreuses, mais la principale fonction est la communication. On entend par communication l'échange d'informations entre deux ou plusieurs locuteurs. La fonction de communication peut être subdivisée en plusieurs fonctions secondaires. La fonction expressive ou émotive, le langage exprime l'intériorité de l'individu. Lorsqu'on parle, notre vie intérieure ne nous appartient plus, car on livre à autrui notre intériorité. Hegel disait justement que le langage est une manifestation par laquelle l'individu ne s'appartient plus, parce qu'il sort de lui-même pour livrer à autrui son intimité. La fonction appellative ou conative est destinée à produire un certain effet sur le récepteur. L'émetteur cherche à provoquer chez son récepteur des effets sans les partager. C'est le cas du menteur, de l'hypocrite ou de l'acteur. La fonction magique ou créatrice peut être perçue dans la pratique du sorcier qui, par ses incantations, paroles magiques, arrive à agir sur la nature. Avec son abracadabra ou toute autre formule, le magicien produit l'effet souhaité. La dimension magique du langage trouve son expression la plus achevée dans le verbe divin. Dans les religions révélées, Dieu a créé le monde par le pouvoir du verbe, en disant à la lumière « sois » et la lumière fut. La fonction thérapeutique, le langage console l'individu de ses souffrances. Celui qui a un remords peut se soulager lorsqu'il se confesse. La psychanalyse aussi guérit par la méthode du divan. Le non-dep, cérémonie d'exorcisme, guérit également. La fonction poétique ou esthétique, elle accorde une importance particulière à l'aspect esthétique du message transmis. Elle utilise des procédés qui permettent de mettre le langage lui-même en valeur, et cela dans des œuvres poétiques. Cette énumération est loin d'être exhaustive, car les fonctions du langage sont nombreuses. 5. Les pouvoirs du langage. Le langage est un instrument de domination pour qui sait l'utiliser. Le pouvoir du langage peut être perçu dans le domaine de la politique ou de la presse. Le politicien est d'habitude un démagogue, flatteur, menteur, qui sait attirer l'attention par son discours.